Bonjour à tous et éteignez vos portables. Aujourd'hui, votre rendez-vous avec le théâtre et la danse vous propose un voyage dans le temps, plus précisément au IVe siècle avec Hypatie, seule femme mathématicienne et philosophe de l'Antiquité. Ce personnage hors du commun dirigea notamment l'école d'Alexandrie et sa fameuse bibliothèque aux 400 000 manuscrits. Écrite en 1997 par l'auteur gréco-canadien Pan Bouyoukas et mise en scène par Andonis Vouyoukas, Hypatie ou la mémoire des hommes sera présentée pour la première fois au Théâtre Gyptis à Marseille du mardi 19 janvier au samedi 6 février. Déjà traduite en plusieurs langues, cette œuvre a reçu le premier prix du concours Journée d'auteur au Théâtre des Célestins à Lyon en 1999. Malgré son importance lors de son vivant, Hypatie reste un personnage méconnu dans la mesure où pratiquement toutes les traces de son existence ont été soigneusement effacées par les religieux. Hypatie est née en 370. Elle était la fille du mathématicien et astronome d'origine grecque Théon l'Alexandrin. En grandissant aux côtés de son père, elle se nourrit de ses deux sciences et s'intéresse aussi à la philosophie. Elle approfondira surtout la pensée de Platon et d'Aristote et enseignera ces matières pendant une vingtaine d'années, malgré de fréquentes menaces. Au IVe siècle, trois moines, dont l'archevêque fanatique d'Alexandrie, mettent le feu à la célèbre bibliothèque pour détruire la somme des livres impies qui sont autant d'obstacles à l'évangélisation de la ville. Hypatie entreprendra de recréer la bibliothèque grâce à la seule mémoire de tous les scientifiques de l'époque, notamment celle de son amie Sarah, juive et médecin. Elle mourra pour ses convictions en mars 415, à 45 ans, lapidée et mise en pièces par les chrétiens fanatiques. Cette création pose la question de l'intolérance religieuse et de ses conséquences. Et selon Andonis Vouyoukas, je cite, « L'humanité ne vit pas à la même date du calendrier et il faudrait probablement s'interroger non pas sur les méfaits de telle ou telle religion, mais sur l'impossibilité d'accepter l'autre tel qu'il est dans son espace-temps. » Pour construire son spectacle, le metteur en scène s'est entouré de 7 comédiens. Agnès Audifrène, Didier Bourguignon, Stéphane Fatou, Michel Grisoni, Martin Camoun, Mathias Maréchal et Philippe Séjourné, mais aussi d'une chanteuse soprano, Muriel Thomao, de 4 musiciens de l'ensemble Télémaque dirigé par Raoul Lé et de 10 danseurs de la compagnie Grenade de Josette Baïs. Un sacré pari donc pour Andonis Vouyoukas qui opte ici pour une scénographie abstraite sans pratiquement aucun élément de décor. Légèrement incliné, le plateau nu pourrait représenter une terrasse de marbre ou une sorte de forum composé de dénivelés, donnant ainsi un relief particulier aux différentes scènes. Des costumes sobres et intemporels, une musique et une chorégraphie contemporaine appuient les dialogues également maintenus dans un registre moderne pour ne pas tomber dans le piège de l'historicisme et l'emphase. Bonjour Andonis Vouyoukas et bonjour Josette Baïs.
Bonjour.
Alors merci bonjour. De vous être libéré en pleine répétition pour venir nous parler de votre dernière création, Hypatie ou la mémoire des hommes, qui sera prochainement présentée au Théâtre du Gyptis à Marseille. Pour commencer, puisque vous disposez tous les deux d'une grande expérience de la scène, j'aurais bien aimé que vous nous donniez en quelque sorte la définition de votre travail. Andonis évidemment pour la mise en scène et Josette aussi pour la chorégraphie.
La définition, personne ne l'a su jusqu'à présent. On peut être un témoin, on peut être un dictateur, on peut être un conseiller, on peut être un psychanalyste, on peut être mille choses. Je pense qu'il n'y a pas de définition pour le travail de la mise en scène. C'est comme un chef d'orchestre, qu'il peut être un bon chef d'orchestre, sensible et tendre et amoureux des musiciens, comme des acteurs, comme de l'ensemble des participants, et ça peut être un dictateur qui impose sa voix. Par conséquent, il n'y a pas d'échange. Et nous avons quelquefois des spectacles intéressants sous la dictature, mais en réalité, les autres n'ont pas trouvé leur épanouissement. C'est tout ce que je peux dire.
Mais quelle est votre manière personnelle d'aborder la mise en scène?
C'est l'amour. J'aborde la mise en scène, d'abord, je commence comme toujours par le désir. Le désir naît parce qu'il y a quelque chose qui me provoque dans la vie sociale. Et comment je travaille, mais c'est très simple. Le désir que j'ai d'en parler de quelque chose, d'avoir ce petit pas que le théâtre, je dois le communiquer à d'autres personnes. Les autres personnes sont tous les collaborateurs.
C'est comme choisissez vos textes.
C'est comme ça que je choisis toujours mes textes, c'est comme ça que je choisis aussi mes collaborateurs. Avec l'idée que ça va les enthousiasmer eux aussi.
Les comédiens.
Pas seulement. Le comédien, la chorégraphe, le compositeur, la scénographe, la costumière, vous voyez, cet ensemble, l'éclairagiste, ça veut dire c'est un monde.
Toute l'équipe.
Il y a alors toute l'équipe. Et une fois que ce désir est commun, après il faut qu'on trouve tous notre plaisir. Et c'est ce plaisir qu'on va communiquer au public. Alors c'est évident que ce ne peut se faire pour moi, dans mon tempérament, que dans des rapports de confiance absolue et d'amour. Si je sens une hostilité à l'intérieur, ça me rend malade et je ne peux pas travailler.
Vous, Josette, comment pourriez-vous parler de votre danse qui a beaucoup évolué depuis les années 80, quand vous étiez, je crois, avec Jean-Claude Galota. Ensuite, il y a eu vos interventions dans les quartiers nord de Marseille et puis la création donc de la compagnie Grenade.
Oui, ben, nous, on peut se caractériser peut-être par deux mots, création et communication. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de réunir des gens aussi, comme Andelys, autour de moi. Donc la particularité qu'on a, c'est qu'on réunit des gens qui ont des âges très différents, puisqu'on commence avec des tout-petits qui font des spectacles à 7 ans, jusqu'aux professionnels, donc qui ont plus de 18. Et tous ces gens-là ont fait des groupes, ont réuni des groupes qui viennent soit du centre-ville d'Aix ou de Marseille, ou d'ailleurs, parce que ça vient de très loin maintenant.
Ça représente combien de danseurs ?
60, une soixantaine. On a une soixantaine de danseurs et on a 4 spectacles qui tournent en permanence, ça se relaie. Donc on a des spectacles de petits, on vient de créer Oliver Twist au Grand Théâtre de Provence, donc qui a la chance de pouvoir tourner toute l'année prochaine. On tourne Ulysse de Jean-Claude Galota parce qu'on s'est retrouvés aussi pour créer des choses ensemble à partir de pièces qu'il avait fait en 80 et que j'avais dansé moi-même. Voilà, et puis on a donc le Sacre du Printemps qui tourne avec les adolescents. On a l'espèce de groupuscule comme ça. On a les tout-petits, on a les pré-ados, les ados, et après on a la compagnie professionnelle. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir d'où viennent les gens, quelles sont leurs personnalités, leurs désirs, leur façon de se mouvoir, leur façon de penser. Et après, de mettre tout ça ensemble, ce qu'on a appelé un peu grossièrement le métissage. C'est-à-dire que chez nous, tout est bon. On jette rien a priori. Donc tous les enfants qui vont venir avec des passés de hip-hoppers ou de danseurs orientales, de danseuses orientales, parce que c'est souvent les filles, ou bien asiatiques et autres. Nous, on prend tout ça et on laisse intégrer notre corps avec toutes ces données. Et après, en fonction des thèmes qui sont choisis, on va travailler de telle ou telle façon.
Andelys, aussi, je voudrais vous poser la question suivante. Savoir comment vous vivez le fait d'être à la tête d'un théâtre depuis quand même, je crois, une vingtaine d'années maintenant. Et est-ce que cela se présente comme un atout ou plutôt comme un handicap quant à la création, par exemple ?
Et c'est les deux à la fois. D'un côté, c'est un atout parce que c'est un grand théâtre et on peut monter des grands spectacles. Et c'est un handicap parce que c'est un théâtre comme tous les théâtres qu'on construit en France par des architectes qui ne discutent pas avec les gens de théâtre avant de les construire. Ça veut dire un théâtre doit être un espace immense qu'on puisse transformer comme on veut, quand on veut.
Il y a combien de places d'ailleurs au Gétis ?
Il y a 650 maintenant, mais il y avait 700. On en a enlevé une partie des sièges parce que les gens voyaient mal. Je veux dire, le côté du plateau à l'italienne est une erreur fondamentale. Le premier théâtre dans l'histoire, évidemment grec, était des amphithéâtres. Déjà beaucoup plus beaux, parce qu'au moins on voyait tout très très bien, tous les spectateurs. Mais aujourd'hui, il ne faut pas non plus faire que comme ça. Le théâtre doit être un espace, parce que le théâtre en grec veut dire le lieu d'où l'on voit. Par conséquent, ce n'est pas un art. L'art, c'est la poésie dramatique. Ça, c'est l'art. Poésie ou texte dramatique, ça n'a pas d'importance. Par conséquent, le théâtre, c'est un lieu où on peut avoir des chorégraphies, on peut avoir des concerts, on peut avoir de l'opéra, on peut avoir ce qu'on appelle théâtre. Ça veut dire qu'on peut avoir toutes les formes du spectacle vivant. Et il faudrait alors créer des espaces pour les siècles qui viennent comme de notre siècle, vraiment des espaces qu'on puisse transformer comme on veut. Il y a un théâtre comme ça dans notre région qui est à Miramas, où on peut le transformer comme on veut et c'est sublime.
Le fait quand même d'être dans ce théâtre depuis si longtemps, est-ce que ça n'entraîne pas une sorte de routine ou d'habitude qui pourrait nuire justement à un changement qui pourrait être plus porteur de créativité?
Non, c'est le contraire. D'ailleurs, en France, si on n'a pas de théâtre, il n'y a pas de théâtre en France. Il y a de bons spectacles de temps en temps, mais il n'y a pas de théâtre. Pour avoir du théâtre, il faut un lieu fixe, comme dans tous les pays du monde, et il faut surtout des collaborateurs permanents. Des acteurs.
Une troupe.
Oui.
Pour en venir maintenant à Hypatie et à sa mise en scène, je crois que vous aviez déjà monté plusieurs tragédies grecques. Comment avez-vous abordé le texte de Pan Bouyoukas? Est-ce qu'il vous a imposé certaines contraintes dans la mise en scène? Ou est-ce qu'il s'est, par exemple, opposé à certaines de vos idées? Comment aussi a-t-il abordé le fait que vous ayez envie de mêler la danse, la musique, sur scène, etc.?
Le texte de Pan Bouyoukas, je le connais depuis 10 ans. Il me l'avait confié, je lui avais dit que c'était très intéressant. Mais je n'avais jamais eu ce désir absolu. C'est depuis que je vois des femmes voilées partout dans le monde, à partir de cette misogynie terrible que je vois autour de moi, à partir du moment où je lis que 3 femmes meurent en France toutes les semaines par des coups de leur compagnon ou de leur mari, c'est à partir de ce moment-là que je dis « je vais le monter ». Alors, je n'ai pas demandé aucun accord à Pan Bouyoukas, mais je lui ai téléphoné simplement au Canada et je lui ai dit « je monte ton spectacle ». Point final. Et après, j'ai commencé à fantasmer sur ce spectacle et j'ai commencé à voir des éléments dans le spectacle qui se rapprochent énormément de la tragédie grecque sans qu'il ait voulu, lui, écrire une tragédie grecque. Il a écrit une pièce contemporaine, mais qui traite un sujet du 4e et 5e siècle de notre ère. Et quand il a vu les répétitions maintenant, où on introduit des choses qu'il n'a pas pensées, par exemple, la chorégraphie de Josette Baïz. Il n'a pas prévu du tout que je serais le musicien sur le plateau. Il n'avait pas prévu du tout que j'allais faire des coupes, certaines coupes sur le pléonasme, parce qu'il y avait des moments pléonastiques. Je ne lui avais pas demandé l'autorisation. Mais il a vu les répétitions.
Et il a adhéré à toutes vos décisions.
Il est ravi parce que c'est un homme très cultivé, très intelligent, et c'est un fin dialecticien. Alors voilà, il a adhéré. Mais je n'ai pas demandé. De toute façon, si quelqu'un ne veut pas, il peut dire « je ne te donne pas les droits ». Si on donne le droit, on donne le droit.
Mais cette pièce qui est écrite dans une langue en fait très contemporaine relate des faits qui se sont déroulés il y a quand même 15 siècles. Et on s'aperçoit que tout est vraiment très actuel. Est-ce que c'est ça que vous disiez, en fait, que vous aviez vraiment envie de soutenir et de mettre en avant?
Oui, parce que ce que vous dites était tout à fait juste. Quand je montais Cube, c'était la même chose. C'était la première intervention en Irak. Je veux dire, c'est toujours la même histoire. Alors comment je pourrais parler des femmes spoliées, des femmes violées, des femmes qui se trouvent en exil, les hommes qui sont assassinés tous? Euripide était un génie, évidemment. Il parlait aux Athéniens des crimes des Athéniens, en situant ça à Troie, mais en fait c'était la guerre du Péloponnèse. Je fais la même chose. Je prends Équipe, mais je parle d'aujourd'hui, sans changer quoi que ce soit. Pareil avec Bouyoukas. Je prends son texte Hypatie et je parle d'aujourd'hui, parce que c'est un sujet complètement contemporain. D'où on avait besoin d'un compositeur qui fait une musique contemporaine, tantôt atonale, tantôt avec des réminiscences de musique grecque, et aussi Josette Baïz, que je savais son travail, que je le connaissais très bien, et que c'est aussi une danse complètement contemporaine. Ces choses-là sont indispensables. On ne va pas faire un musée du théâtre. Le théâtre doit être toujours contemporain.
La tendance quand même aujourd'hui est à des spectacles de plus en plus hybrides, hein, qui mêlent évidemment le texte à la danse, à la musique.
Mais moi je l'ai fait depuis, oui. Quand je suis arrivé en France, depuis 1970.
Mais est-ce que ça complique la situation d'associer quand même des disciplines différentes, Josette ? Pour vous, non, votre approche.
Là, j'ai trouvé ça très fluide, hein, dans le travail. C'est vrai que quand Andonis m'a fait lire la pièce, moi, j'étais séduite complètement, déjà par l'histoire, quand même hallucinante, hein, de cette bibliothèque brûlée et rebrûlée, et puis par le personnage d'Hypatie qui inspire un total respect, quoi, cette femme qui avait des convictions et qui, pour ses convictions, a tout sacrifié et qui n'a jamais, de ce que j'ai compris de la pièce, fait un seul compromis. Y compris par rapport à l'homme qu'elle aimait, qui essayait de louvoyer pour trouver des solutions politiques, sociales, aux crises. Donc, moi, il m'a semblé que cette femme était absolument extraordinaire. J'ai même pas, bon, à part vraiment des grandes, grandes figures qui sont incroyables, comme Jeanne d'Arc ou Sœur Teresa, ou des gens comme ça, je vois pas bien. Parce que là, en plus, elle le fait par conviction intime, aussi bien sociale, politique qu'humaine. Et ça, c'est formidable. Et vraiment, elle est impressionnante. On est en extase, parce que, comme je disais, on est toujours en train de faire des compromis. C'est obligé. Et elle n'en fait pas.
Pour le travail de la pièce, est-ce que vous avez fait vos propres propositions à Andonis, ou c'est Andonis qui vous a plutôt suggéré des idées de chorégraphie?
De toute façon, Andonis était très clair. Il m'a demandé de faire un travail sur le début, sur la fin, avec des moines qui sont... Enfin, nous, on symbolise tout ce qui est dans la fureur, la haine. Et donc, c'est nous qui tuons Hypatie. Donc, on a vraiment un rôle terrible. Donc, ce sont des moines absolument... ivre de violence. Donc nous, on a travaillé sur ça. C'est vrai qu'on s'est assez bien travaillé en général sur la violence, parce que bon, bah, c'est un thème récurrent chez les chorégraphes, hein, surtout actuel. Donc on a travaillé là-dessus. Donc Andonis, c'était très clair sur c'est le début, c'est la fin. Et après, il y a un passage au milieu aussi, où on nous a demandé, au contraire, à contrario, de mettre une danseuse en solo.
C'est toi qui l'as proposé, j'étais ravi.
Non, c'était Alex. C'était le musicien. C'est parti d'Alex, en fait. C'est le musicien qui avait proposé, sur un très beau poème qui s'appelait L'Amandier, de pouvoir faire un solo d'une femme qui serait un peu une espèce de double d'Hypatie, et donc là on a fait quelque chose au contraire de très doux. Non, mais ça s'est fait très de façon très fluide.
Personne n'a essayé de tirer un petit peu la couverture à soi.
Oh ben non, on est trop vieux pour ça. On va pas commencer. Ça, c'est les jeunes loups de la chorégraphie et du théâtre qui tirent d'un côté d'un l'autre. Nous, on essaye que les choses se passent bien, avec bonne humeur et avec intelligence, parce que sinon on s'en sortirait pas.
Il y a aussi la chanteuse, hein, les danseurs. Que symbolise-t-il vraiment, surtout la chanteuse, dans l'histoire ? Son intervention ?
Son intervention, pour moi, c'était dès le départ quitter cet espace réaliste, si on veut, au niveau où le théâtre peut être réaliste, encore que c'est différent. Mais ça n'empêche, ce qui se passe sur le plan de la rhétorique, du texte, des conflits, ou des danses même, est soudain quelque chose qui nous pousse, à un moment donné, à penser qu'il y a autre chose aussi dans la vie. Ça veut dire que cette fille vient comme un deus ex machina. Elle vient alors de quelque part pour nous raconter quelque chose d'autre, qui nous apaise, qui nous permet. Et de notre côté, les passages musicaux qui existent entre les scènes, pas toutes les scènes, à certaines scènes, et les passages de la chanteuse, de Muriel Tomao, qui est vraiment mon enfant aussi, parce que je l'ai connue quand elle avait 16 ans, non, c'est une femme, c'est... Comme dans Brecht, le song, on éloigne, on arrête l'action pour réfléchir pendant qu'il y a le song. Et pareil, comme à la tragédie grecque, quand le cœur intervient, comme ça, on éloigne l'épisode pour avoir un temps de réflexion.
Parce que les comédiens s'immobilisent en quelque sorte.
Et les comédiens s'immobilisent parce qu'ils ont un rapport avec elle. À un moment donné, au début, elle s'adresse... En fait, elle est la continuité chaque fois du texte d'Oreste, de l'amoureux d'Hypatie. Et de la seconde fois, pareil. Une autre fois, c'est la voix de la petite juive Sarah qui va être assassinée par son père. Ça veut dire, chaque fois... Elle incarne quelque chose qui existe sur le plateau. Alors l'acteur s'arrête de parler parce qu'il est remplacé par elle. «
au début de la pièce, les danseurs entrent avec les comédiens. Et là, il y a un très bel effet de surprise parce qu'en fait, on n'imagine pas que le groupe va se décomposer et se lancer comme ça dans une espèce de tumulte chorégraphique. Comment vous est venue l'idée, Josette, de cette entrée ?
Bah, c'est-à-dire que l'entrée elle-même, donc je vous dis pas ce que c'est comme ça,
non, la, c'est surprise, la surprise,
mais bon,
oui.
Ça c'est Andonis qui nous a dit, voilà, vous rentrez comme ça, nous on a suivi le principe qu'il nous avait installé. Et après, à un moment donné, donc c'est une fusion entre la musique et la danse, et le théâtre, dans le sens où là, tout démarre en même temps et surprend même les choses qui sont en train d'être faites. Donc là, nous, on est partis vraiment en même temps que la musique, on est dans une espèce de chœur comme ça, musical et chorégraphique, qui est très court et très en même temps perturbant par rapport à l'action qui est là, quoi.
Pourquoi le parti pris aussi d'un plateau très dépouillé, avec pratiquement pas de décor, hein?
C'en est un.
C'est pas un décor, c'est une scénographie. Ouais. C'est une scénographie parce qu'il fallait créer un espace multiple où les différents lieux, que ce soit les temples de Sérapis, que ce soit les lieux disons religieux, soit dans le même espace, sinon ça prendrait sa caractéristique du baroque, au moins comme on a l'habitude de le faire en France, en changeant de décor. Or non, là c'est magique ce décor.
Et la scène est d'ailleurs légèrement inclinée.
Elle est. Ça c'était, j'ai imposé à l'opposé de Josette, j'ai imposé à la scénographe, qui est une très grande scénographe, Claude Lemaire, qui a travaillé avec à la Comédie Française pendant des années et des années, elle a travaillé avec Antoine Vitesse, elle a travaillé comme professeur à l'École Nationale de Strasbourg, c'est une très grande personnalité, et je lui ai imposé deux choses, j'ai dit d'abord il y a un plan incliné. Elle a acquiescé.
Et c'est pas trop difficile pour la chorégraphie, j'imagine que ça doit être un...
Si, c'est très très difficile. Tous les appuis sont faux pour nous, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps être dans un axe qui n'est pas tout à fait le même. C'est très... Et là, je sais pas si tu as vu le solo de la danseuse, là, ça c'est une chose extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de retenues, de suspensions, comme c'est très féminin, très sensuel. Et donc là, toutes les suspensions, toutes les retenues, on est obligé de gainer beaucoup plus que ce qu'on gaine actuellement sur un plateau plat, quoi.
Oui, je voulais dire, je lui ai imposé un deuxième, les marches qui descendent vers le public, parce que comme ça, je relis la salle où ils sont, on peut imaginer les moines ou le peuple, de toute façon, d'Alexandrie. Et alors, il y a les marches imposées et il y a le cyclo gris au fond qui était aussi imposé. Le cyclo gris, par expérience, je sais, il devient noir quand on ne l'éclaire pas. Un mur, alors, et dès qu'on l'éclaire, on peut avoir ce qu'on veut. Alors, on peut avoir les flammes, le feu que de la bibliothèque.
Mais moi, il me semble juste que la scénographie est vraiment très intéressante, même si elle est très dure à travailler pour nous, parce que par les systèmes de podium qu'elle fait avec des inclinaisons plus ou moins différentes, moi, de ce que j'ai vu, on est tout le temps dans un espace différent, autre. Et on cible l'action. Parce que quand les comédiens sont au fond, on a une certaine vision d'eux. Quand ils sont très à l'avant sur les marches, on a une autre vision. On est tout le temps dans un univers qui est différent. Et pourtant, la lumière n'est pas encore faite, mais on a déjà cette sensation-là.
Quant à la musique signée, je crois, Alexandros Markeas, elle est interprétée par l'ensemble Télémaque sous la direction de Raoul Lé. Alors, pourquoi aussi ce parti pris des musiciens sur scène ?
Je le fais presque toujours quand je monte une pièce, comme les tragédies grecques, et comme c'est proche de la tragédie. Et j'avais écouté la musique, les musiques de Raoul Lé, et je lui avais dit, je l'ai téléphoné, il est venu au théâtre, je lui ai dit, je veux que tu m'écrives la musique. Il m'a dit, moi, je n'ai pas d'argent dans cette ville, alors je tourne comme je sais tout le temps. Mais je peux te proposer Markeas. Je suis allé à Paris voir Markeas et je suis allé voir un opéra qu'il avait monté. Et j'étais persuadé immédiatement que c'était le compositeur que je cherchais. Je connais d'autres avec lesquels je collaborais, mais je voulais changer cette fois-ci, parce que cette pièce demandait un autre style, disons, de travail. Et on s'est entendu très bien.
C'est d'ailleurs cette musique qui habille la chronique.
Oui. Et en même temps, Raoul était adorable parce qu'il a dit, bon, je ne fais pas la musique, mais je vais m'en occuper, je vais choisir les musiciens, plus je vais faire la direction de la musique moi-même. Mmh. C'est que je suis ravi parce qu'en même temps, ce qui manque à Marseille, pour moi, les théâtres ne font pas appel aux forces qui existent ici. On a ici, on a des équipes de musique étonnantes. Oui. Entre le baroque et le classique, on a et la musique hip-hop, comme l'a fait François Château, je veux dire. On a des gens exceptionnels ici. On a, à tous les niveaux, on a des danseurs exceptionnels, on a des niveaux de chorégraphique exceptionnels. Pourquoi aller chercher ailleurs? Faire collaborer des équipes entre elles, même si malheureusement, nous ne sommes pas tous riches pour qu'on puisse dire « on participe ». Chacun à 20%, 30% dans une production, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est pauvres tous, c'est ça le problème. Je le regrette. Mais un jour, si on a la chance d'avoir des moyens, on fera des coproductions comme ça, parce que c'est indispensable. Il faut qu'on collabore tous ensemble.
Je crois aussi que dans votre travail de mise en scène, vous avez souhaité mettre l'accent sur deux oppositions, deux idéaux, l'idéal ascétique et l'idéal hédoniste. Alors comment êtes-vous arrivé à faire ressortir ces deux oppositions?
C'est pas exactement ça, je m'excuse. Ah. Les oppositions sont entre la tolérance et l'intolérance, entre la pensée unique et la pensée ouverte, entre ce que j'appelle moi le cartésianisme tel qu'on l'entend en France, que Descartes n'y est pour rien évidemment, et entre le doute grec. Tant qu'on n'a pas de doute, on veut imposer un dogme, quel qu'il soit ce dogme, qu'il soit communiste, qu'il soit religieux, qu'il soit fasciste, avec des dogmes on ne peut pas fonctionner. Il faut que chacun puisse s'exprimer librement, vivre une vie libre, donner son opinion, voyager librement, écrire librement, publier librement, ça veut dire tout ce
c'est
domaine.
C'est plutôt ça
de la
les idéaux.
Et oui. C'est ça l'opposition oui. que je voulais donner.
C'est ça plutôt. Oui.
Tolérance, intolérance.
Pour terminer, je voudrais rappeler qu'un grand péplum espagnol sortira bientôt sur les écrans, Agora. Est-ce que c'est une coïncidence, un hasard, ou est-ce que vous êtes concertés l'un et l'autre pour évoquer donc ce Hypatie?
Hypatie est un phénomène récurrent.
Récurrent, mais quand même...
Pendant des siècles, on l'oublie.
Voilà.
Et soudain, on ne sait pas pourquoi. Il y a 7 livres qui sont sortis en Espagne. Il y a 5 en Grèce. Il y a des dizaines de livres au Canada et aux États-Unis. Ça s'est fait maintenant, la dernière décennie.
Oui, voilà, c'est pour ça.
Et le film, parce que ce metteur en scène, qui est, il paraît un excellent metteur en scène, ce metteur en scène a eu le même besoin, on ne sait pas pourquoi, à la même cette
mais
décennie.
Mais vous vous êtes rencontrés?
Non, pas du tout.
Du tout, du tout.
Parce que quand j'ai téléphoné à la Warner Bros, ils ont dit il n'est pas là, il travaille à 20th Century Fox. Alors je n'ai pas pu le contacter.
Eh bien, merci Andonis Vouyoukas et merci Josette Baïs d'être venue nous faire partager votre passion du théâtre et de la danse et de nous avoir si bien parlé de vos métiers. C'était un vrai plaisir et bonne chance dans cette aventure. À très bientôt.
À bientôt.
Hypatie ou la mémoire des hommes sera présentée au théâtre Gyptis à Marseille du mardi 19 janvier au samedi 6 février. Renseignements et réservations au 04 91 11 00 91 ou sur le site internet www.theatregyptis.com. Notez également qu'une série de rencontres, débats et expositions autour du spectacle seront proposées pendant toute la durée des représentations. Premier rendez-vous, mercredi 13 janvier à 19h à la brasserie La Madeleine à Aix-en-Provence, sur le thème Hypatie, figure oubliée de l'histoire. Ne ratez pas non plus les deux expositions intéressantes dans le hall du théâtre et à la bibliothèque de l'Alcazar. Tout le programme et les infos sur le site internet du théâtre du Gyptis. Vous pouvez aussi retrouver cette chronique en podcast sur le site www.grenouille888.org sur la page Éteignez vos portables. Bon spectacle et belle découverte!